6h04, lundi, c'est le retour au travail, c'est le retour à l'école et on prévoit d'ailleurs une très, très belle semaine. Donc, d'ici à vendredi, essentiellement du beau temps avec des températures un peu plus fraîches au début de la semaine, surtout la nuit. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est un maximum de 16 degrés. La nuit prochaine, 3. Pour demain, mardi, soleil 18. Mercredi, soleil 23. Jeudi, soleil 22. Et vendredi, du soleil 21 degrés. Donc, une très, très belle semaine. Alerte orange pour quelques régions du Québec, notamment la région de Montréal. Ça a été décrété par le gouvernement. Il faut ajouter aussi la capitale nationale. Il y a quelques exceptions. Et également Chaudière-Appalaches. Dans le cas de l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, Laval et la Montérégie, ça reste en zone jaune. Et les autres régions du Québec, c'est le code vert. Pourquoi on en arrive là? C'est que le nombre de cas a augmenté. Je le sais, que plus on va tester, plus on va en trouver. Parce que d'ailleurs, Dr. Weiss nous disait la semaine dernière, quand vous avez un chiffre, vous pouvez le multiplier par 7, peut-être même 10. Donc, des cas qui n'ont pas été testés, des gens qui n'ont pas de symptômes, mais qui ont quand même donc été porteurs du virus, mais sans gravité. Ce qu'on remarque, c'est la raison pour laquelle on en arrive à cette alerte orange, c'est que le nombre de cas d'éclosion, on le voit là, une école qui ferme, un événement comme celui du karaoké, ça fait dire aux scientifiques que la deuxième vague est déjà partie. Ce que le gouvernement ne dit pas, mais ce que Quirion, qui est scientifique en chef, prétend. Pourquoi? Parce que vous avez des éclosions. Puis quand vous avez des éclosions, bien, c'est l'effet domino qu'on veut mesurer. Et c'est vrai aussi, et c'est la difficulté que le gouvernement a, c'est de vous convaincre que c'est une deuxième vague, parce que le nombre d'hospitalisations demeure relativement stable. On n'est pas dans une flambée de décès comme on a vu au printemps. Les gens qui sont les plus touchés sont des jeunes. Et on sait que pour eux, il n'y a pas vraiment de complications. Il y en a dans certains cas, là. Mais essentiellement, ça passe mieux. Vont-ils contaminer des gens qui ont un système immunitaire plus faible, des gens qui ont des maladies chroniques? Et là, ça a un effet boule de neige. Ça met une pression sur le réseau de la santé. Donc, c'est ça le portrait. Et je trouve que le gouvernement devrait sortir des quelques énoncés clairs pour montrer l'importance de la situation. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut savoir, là, ça vient d'où les cas recensés? On a beaucoup parlé de parties, de bars, de... Bon, je pense qu'il y a une obligation d'expliquer en gros où on a localisé des éclosions. À Québec, là, on ferme une école pour 2 semaines. Deuxièmement, il faudrait expliquer aux gens l'effet, et encore plus clairement, là, l'effet pression sur le réseau de la santé. Je vous donne un exemple ce matin. Dans un hôpital des Laurentides, il y a une éclosion. Et là, vous avez des infirmières auxiliaires qui sont en temps supplémentaire. Et hier soir, par exemple, on s'est retrouvé en bris de service. On est en train de vérifier ça, là, mais c'est pas la première fois. On a vu des cas à Maisonneuve-Rosemont, on a vu des cas ailleurs. Il y a une pression. Et si, par malheur, il y a plus de gens âgés qui ont besoin d'être hospitalisés, bien là, ça va être moins comique un peu. Et l'autre effet pervers, c'est l'effet sur les patients non-COVID. Et là, vous prenez des infirmières, puis vous allez les faire tester. Des infirmières aussi qui sont affectées à ces centres de dépistage. Donc, le gouvernement aurait intérêt à être pas mal plus clair dans ça. Et l'autre point, parce que quand vous allez sur le web, vous pouvez trouver tous les chiffres que vous voulez, là. Quel est le chiffre réel du surnombre de morts pour le printemps passé? Parce qu'il y a encore des gens qui me disent, là, qui m'écrivent, regarde, ces gens-là seraient morts de toute façon. Là, je ne parle pas de ceux qui pensent qu'on a inventé des cas COVID, là. Deuxièmement, la grippe fait aussi beaucoup de ravages. Ils seraient probablement donc décédés. Et trois, on nous sort la Suède comme étant le pays qui n'a pas opté pour un confinement radical, qui s'en sort le mieux. Ce qu'on ne dit pas trop, c'est qu'il y a des pays voisins qui ont opté pour le confinement et qui ont eu aussi d'excellents résultats. Puis on n'est pas des Danois, on n'est pas des Suédois. La courbe démographique n'est pas la même. Mais je pense que ce serait important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, le fait d'être en alerte orange? Bon, on comprend que le gouvernement n'a pas appliqué l'essentiel là, des mesures, ou de façon intégrale plutôt, les mesures qui étaient prévues là, dans le tableau de la semaine passée. Qu'est-ce qu'on dit? Idéalement, pas de party entre amis, pas de souper à la maison. On restreint le nombre de personnes qui peuvent être donc à la maison pour ces réunions. Alors, ça veut dire quoi? On ne vous demande pas plus que 6 personnes, pas plus que 2 familles. On ne veut pas que les gens, évidemment, fassent d'énormes regroupements. Comme Marie-Laurence vient de décrire il y a quelques minutes. Quand tu as 10 voitures stationnées autour, quand tu te promènes avec un porte-voix, les gens s'en foutent. Et ils sont nombreux à ne pas respecter. Et on sait ce que ça donne, l'effet party. Ou encore les fameux mariages. Les bars et les restaurants pourront plus vendre de l'alcool après 23 heures et devront fermer à minuit. Il y a des gens qui disent que ça va casser les restaurants, que ça va casser les bars. C'est une première étape. Il y en a par contre qui voudraient qu'on ferme les bars aussi, là. Mais c'est clair que les restaurateurs vont avoir de la misère. D'ailleurs, en passant, parenthèse, à Québec, ils sont en train de regarder la possibilité de permettre des terrasses cet hiver. Donc, avec une espèce de dôme et la clientèle, donc chauffée, là, les gens pourraient manger à l'extérieur. J'ai vu ça dans d'autres pays, justement des pays nordiques, où on a des terrasses comme ça, c'est comme des cloches qui sont installées, puis votre groupe, ben, vous vous retrouvez là. Fini aussi au restaurant, les grandes tablées. On demande aussi de limiter les visites pour les centres de soins de longue durée à des membres proches de la famille, des gens qui sont signifiants. On ne veut pas faire comme la dernière fois, empêcher toute visite. Ça n'a pas de bon sens. Et je pense qu'il n'y a personne qui veut revenir vers ça. Et la bonne nouvelle, c'est quand même le fait que les sports-études sont maintenus. Et on a, je pense, insisté tellement sur le rôle du sport pour garder des jeunes à l'école. Alors ça fait partie de l'ensemble des mesures qui ont été annoncées. Je vais ajouter un certain nombre de petites choses parce que beaucoup de gens m'écrivent là-dessus. Notamment pour ce qui est de l'enseignement à distance. Et je ne parle pas là au secondaire, mais je parle au niveau collégial. Et encore là, tu te demandes s'il y a des contrôles de qualité qui sont faits. Je vous donne 2-3 exemples. Des cours où le prof qui est en ligne décide que ça va durer 40 minutes, 30 minutes, ça dure moins longtemps que prévu. Prof difficile à retrouver dans la semaine. Des bugs, toutes sortes d'affaires. Et bien des jeunes, on pourrait se dire, ils n'ont pas de trouble avec ça. Il faut croire qu'il y a des ajustements majeurs à faire aussi dans l'enseignement en ligne. Puis au secondaire, il y en a qui sont tannés. Puis on comprend qu'ils peuvent y aller, mais dans d'autres cas, ils ne peuvent pas. Alors, tu sais, c'est... Mais il y a beaucoup, là, à partir du cégep jusqu'à l'université, beaucoup de cours maintenant qui ne se donnent qu'en ligne. L'autre affaire, les préposés aux bénéficiaires, là, qui ont été formés rapidement par le gouvernement là, pour combler les postes, 7 000. Il y a quelqu'un, il faut qu'il m'explique comment ça fonctionne dans le mammouth, là, parce que j'ai de la misère à suivre. On a formé des gens parce qu'on manquait de personnel. OK? C'est 26$ de l'heure. Je comprends, là, c'est pas le 26 pur, c'est des primes, il y a une négociation. C'est autour de 49 000 par année. Comment quelqu'un peut m'expliquer là, que d'un côté, on manque de monde, on en forme à la vapeur pour les envoyer dans les centres de soins de longue durée, puis je reçois des courriels de gens qui travaillaient 10 jours sur une période de 14 puis 15 qui se font couper des heures. On n'a plus besoin des préposés. Supposément que les autres prennent leur place. Sérieusement, je la comprends pas. Peut-être moi qui est cave, là, mais je la comprends pas. On m'explique qu'on a besoin de personnel, on n'en a pas. Parfait, on en forme. Puis là, on décide de couper les heures aux autres. Quand même assez bizarre. Alors, on est en pleine grève générale illimitée dans les garderies familiales. Il y a eu une négociation au cours de la fin de semaine. Le syndicat demandait la nomination d'un arbitre. Le gouvernement refuse et propose un médiateur. Et le ministre Lacombe dit en gros que les parents sont pris en otage par cette décision. Et selon le syndicat, c'est autour de... En tout cas, d'après leurs calculs, mais tu sais, quand on fait les calculs, ils peuvent déduire un certain nombre de dépenses, mais ils prétendent qu'ils sont en bas du salaire minimum et demandent une augmentation importante de 16 $. Alors, quelle sera la suite des choses? Je ne sais pas, on va parler avec le syndicat tantôt, mais là, les parents doivent s'organiser. Puis il m'a dit une chose, là, en ce début d'année, là, c'est pas facile pour les parents de s'organiser. T'sais, quand tu fermes une école, quand tu fermes une classe, que les enfants retournent en confinement, quarantaine si on veut, là, ta garderie familiale est en grève, t'as une pression de ton employeur, je veux dire, c'est un début là, d'automne ou de rentrée qui est pas facile, évidemment, pour les parents. Alors, cette grève, donc, qu'on pensait pouvoir éviter en fin de semaine, a été déclenchée. Cette affaire bizarre aussi, d'une lettre adressée au président Trump, qui serait parti du Canada, possiblement de Montréal, avec à l'intérieur un produit toxique, où il n'y a pas d'antidote, extrêmement nocif. Donc, ça a été intercepté, parce qu'on sait que le courrier est toujours, évidemment, filtré. Et on voit d'ailleurs, à partir des images prises par CNN, le code postal, le début du code postal, qui montre que ce serait à Montréal. Et là, on a procédé à l'arrestation d'une femme. On pense que c'est elle qui a envoyé la lettre. Elle a été appréhendée à la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est passé dimanche. Alors donc, on verra pour la suite des choses. Mais quand vous regardez le code postal, ça donne quelque part dans l'ouest de Montréal. Mais on ne sait pas si c'est la bonne personne, mais en tout cas, il y a une femme qui a été arrêtée en rapport avec ce dossier-là. L'autre truc qui est sorti en fin de semaine, ce sont ces documents secrets qui montrent qu'il y a des milliards de dollars qui circulent grâce à la collaboration des banques. Et quand on peut appeler ça carrément des opérations de blanchiment d'argent. Alors, ici, au Canada, c'est la Société Radio-Canada qui fait partie de ce consortium qui a obtenu des documents qui émanent de BuzzFeed, mais ça montre que les grandes banques, JP Morgan, la Deutsche Bank, Bank of New York et d'autres, là, ferment les yeux et aident des bandits à blanchir de l'argent. Il y a quelques cas célèbres qui ont été recensés. En 2012, la HSBC a signé un accord de réparation après avoir blanchi 881 millions pour El Chapo, le trafiquant de drogue. Et ce que ça montre, c'est que les banques ferment les yeux, collaborent. La moitié des banques n'avaient pas d'informations sur une ou plusieurs entités liées à des opérations douteuses. Ces institutions sont pourtant tenues de connaître l'identité des individus concernés et la nature des transactions. Ce qui ne semble pas être le cas. Et ce qu'on remarque, donc, c'est que les banques collaborent et permettent aux gens de blanchir et de promener à travers le monde des sommes spectaculaires. C'est intéressant. Ça va être d'ailleurs développé à l'émission Enquête cette semaine. Un petit mot en terminant, deux petites choses. Là. D'abord, on apprend dans la presse ce matin qu'il faut se méfier du poisson fumé. Parce qu'il y a eu plusieurs cas. Les inspecteurs de la ville de Montréal ont été occupés à épingler des délinquants du poisson fumé, produits posant des risques pour les consommateurs. Alors que ce soit du maquereau, du saumon, de l'aigle fin, il y a 9 rappels de produits qui ont été faits en 3 mois au Québec. Il paraît que c'est du jamais vu. Ce sont les inspecteurs qui s'inquiètent parce que, quand ils ont examiné certains produits, il y avait, semble-t-il, des bactéries et que ça aurait pu, donc, attaquer la santé des gens. Et là, c'est le retour à la mode, dit-on, des méthodes artisanales, mais que c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. il y a des gens qui s'improvisent beaucoup. Et ajoutez à cela que la consommation de poissons est de plus en plus populaire. Alors, assurez-vous de la marque, parce que ceux qui se sont fait arrêter, il y a deux rappels qui visent des produits de poissons fumés, une entreprise du secteur Anjou, qui vend la marque La Boucannerie et ADAR, là, Adar, dans la plupart des supermarchés. Il y a également une poissonnerie Sherbrooke, dans l'ouest de Montréal, qui a dû rappeler et jeter 6 produits fumés différents au début du mois de juillet. Certains prétendent que c'est l'emballage qui était déficient. Et juste pour terminer, vous connaissez la force du Québec dans le domaine des traversiers. Le Saréma est incapable de se rendre à Matane. Il a connu des ennuis au large de Bécancour dimanche, une heure après avoir quitté le port de Trois-Rivières, où il venait de subir une série de travaux. Le traversier qui a coûté 45 millions devait remplacer le F.A. Gautier à la traverse Matane-Bécomo-Godbout à partir de demain. Le Saréma a dû être assisté par le remorqueur Océan Charlie lorsqu'il a rebroussé chemin. Semblait-il qu'on ne sait pas exactement quel est le trouble. Alors, les détails ont été obtenus par Radio-Canada. Tu as dit qu'on est des méchants champions, nous autres, avec nos traversiers. Alors, il semble que le Saréma est toujours accosté ce matin au port de Trois-Rivières, pas capable de se rendre à Matane. Pout, 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 pout. Ça continue. 6h22. Toujours l'accident sur la métropolitaine, Linda.